بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. On continue dans la lecture de Bulugh al-Maram, Kitab al-Jami' Bab al-Tarhib min Masawih al-Akhlaq. Donc le livre Bulugh al-Maram, le chapitre, le dernier chapitre et le sous-chapitre sur la mise en garde contre les mauvais comportements. وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات متفق عليه. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit n'entre pas au paradis un qattat. On va voir ce que c'est que le qattat. Ce hadith, il est dans les deux sahih. Donc le cheikh Abdullah al-Bassam dit dans l'explication القتات هو النمام الذي ينقل كلام الناس بعضهم في بعضهم إلى بعض لغرض الإفساد بينهم وإثارة العداوة والبغضاء فيما بينهم وكل ما عظم أمرها واشتد خطرها كانت أكبر إثما وأعظم جرما فهي من بين الأقارب فهي بين الأقارب وذوي الرحم والأصحاب والجيران أشد منها بين الناس البعيدين. Donc le qattat, il dit c'est un nammam, c'est-à-dire la personne qui fait les calomnies et qui colporte les paroles des gens les uns sur les autres pour les séparer et pour mettre l'inimité et la haine entre les gens. Et plus donc cet acte il est grand, et plus son danger est grand, et ses conclusions sont grandes, ses conséquences, et bien plus le péché encouru est grand, et plus le crime est grand. Et quand ça se fait entre des gens proches, et des amis, et des voisins, c'est encore pire que quand on le fait entre des gens loin. Des gens lointains, pardon. An-namimatu min kaba'ir adh-dhunub لما يحصل فيها من الأثر السيء والعاقبة الوخيمة قال المنذري أجمعت الأمة على أن النميمة محرمة وأنها من أعظم الذنوب عند الله. النميمة, donc c'est cet acte qui est de colporter les paroles des gens les uns sur les autres, fait partie des grands péchés car elle a des mauvaises conséquences. Et al-Mundhiri rahimahullah a dit que c'était un consensus de la communauté sur l'interdiction de an-namima et qu'elle fait partie des plus grands péchés. جاء في النميمة نصوص مخيفة قال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. Donc il y a beaucoup de textes qui mettent en garde et qui font peur vis-à-vis de An-Namima, notamment le verset qui dit et ceux qui nuisent aux croyants et aux croyantes pour ce qu'ils n'ont pas fait, ils portent certes un grand bohtan, c'est-à-dire un grand mensonge, une grande accusation et un grand péché. Et un péché évident, pardon. وجاء في البخاري ومسلم من حديث ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان بكبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. Et il est dit dans le sahih de Bukhari et le sahih de Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ou plutôt Abdullah ibn Abbas a dit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé devant deux tombes. Et il a dit à propos des deux personnes qui étaient enterrées, ces deux personnes sont châtiées, c'est-à-dire en ce moment. Et elles ne sont pas châtiées pour quelque chose de grand. L'un d'entre eux ne se protégeait pas de son urine, et l'autre colportait les paroles des gens. Yamshi bayna an-nas bin namima. On ne peut pas traduire littéralement, c'est-à-dire il colporte les paroles des gens les uns contre les autres. Il fait un namim. Ici, il y a une faïda. Quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ils ne sont pas châtiés pour quelque chose de grand. Et dans une autre version, il a dit, bala huwa kabir. Dans une version, il a dit, ils ne sont pas châtiés pour quelque chose de grand, ou plutôt c'est quelque chose de grand. Donc une fois, il a renié que ce qu'ils ont fait, c'était grand, c'est-à-dire grave. Et tout de suite après, il a dit, au contraire, c'est grave. Comment on peut expliquer cette chose-là? Une des explications des ulama, c'est de dire ils ne sont pas châtiés pour quelque chose de grave à leurs yeux, ou alors de quelque chose de grand à commettre, c'est-à-dire que le fait de ne pas se protéger de son urine, ou le fait de colporter les paroles des gens les uns sur les autres, c'est facile à faire. C'est un péché dans lequel on peut tomber facilement. Et aussi, c'est pas quelque chose de grand à leurs yeux, c'est-à-dire eux ils font ça, la plupart des gens ils font ça et ils voient que c'est pas quelque chose de grave et ils sont laxistes vis-à-vis de cet acte. Et quand il a dit bala innahu la kabir, au contraire il est grand, c'est-à-dire auprès d'Allah c'est quelque chose de grand et de grave. même si aux yeux des gens c'est quelque chose de léger et de facile à faire. وأخرج الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شر عباد الله مشاؤون بالنميمة. الإمام أحمد a rapporté ce hadith qui dit les pires personnes auprès d'Allah sont ceux المشاؤون بالنميمة, c'est-à-dire ceux qui colportent ou qui font un namima. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كف غضبه كف الله عنه عذابه أخرجه الطبراني في الأوسط وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن أبي الدنيا. Donc le cheikh il dit dans le Takhrij que ce hadith il est faible. Ce hadith dit celui qui retient sa colère, Allah retient son châtiment. Ça c'est dans l'Awsat de l'imam al-Tabarani. Et Ibn Hajar dit il a un shahid, c'est-à-dire un hadith qui l'appuie dans le même sens, rapporté de Ibn Umar. Alors que ce hadith-là, il est rapporté par Anas et rapporté par Ibn Abi Dunya. Un shahid, c'est quoi? Quand on dit ce hadith, il a un shahid, c'est-à-dire il y a un autre hadith qui vient d'un autre compagnon, mais qui a le même sens. Donc il peut renforcer ce hadith ou le sens du hadith. Donc le hadith, il peut être faible en lui-même, mais le sens, il peut être authentique dans le sens où il y a d'autres hadiths qui vont dans le même sens. Donc on appelle ça un shahid, un témoin, entre guillemets. Donc on va passer ce hadith puisque premièrement il a dit que c'était un hadith faible et surtout parce qu'on a déjà parlé de l'Ghadab, on a déjà vu le chapitre sur la colère et en plus là il répète l'explication qu'on a déjà vue. Donc qui saurait me dire l'explication de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a dit ne te mets pas en colère? On avait dit ça suppose deux significations, quelles sont-elles, sachant que On l'a dit deux fois déjà, c'est-à-dire on l'a dit hier ou avant-hier, et on l'avait déjà fait ce cours. C'est-à-dire voilà, la première explication c'est que, en dehors des situations qui causent la colère, dans sa vie de tous les jours, il s'habitue aux caractères qui sont loin de la colère. C'est-à-dire il s'habitue à être doux, il s'habitue à être clément, etc. De sorte que, quand il lui viendra la cause de la colère, il ne se mettra pas en colère. Et l'autre interprétation, c'est quoi? Bon, c'est la plus facile, entre guillemets, c'est que lors d'une situation où il y a quelque chose qui le met en colère, eh bien, il essaie de combattre sa colère et de se retenir. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا سيء الملكة أخرجه الترمذي وفرقه حديثين وفي إسناده ضعف. Ce hadith, donc rapporté par Abu Bakr, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « N'entre pas au paradis, khabboun ». Khabboun, c'est une personne trompeuse, un khadda', comme on dit généralement. C'est-à-dire un traître ou une personne mauvaise et trompeuse. « Wala bakhil », ni l'avare, « wala sayyi'ul malaka ». Sayyi'ul malaka, c'est-à-dire une personne qui est mauvaise quand elle possède, c'est-à-dire quand elle possède un esclave. C'est un mauvais maître, entre guillemets. Donc il dit ce hadith, il est rapporté par Tirmidhi, mais en deux hadiths. Un hadith qui parle de Al-Khab et Al-Bakhil, et un autre hadith qui parle de Sayyidul Malaka. Et il dit il y a une faiblesse dans sa chaîne de transmission. Et là il rapporte dans l'explication, le shirk, que notamment Al-Mundhiri, Al-Iraqi, Al-Dhahabi ont dit que ce hadith il était faible. Et Sheikh Al-Albani, j'ai regardé dans Sunan al-Tirmidhi, il dit que c'est un hadith faible. Mais étant donné que le sens il est quand même appuyé par des textes du Coran, de la Sunna, on va quand même lire l'explication. Donc il dit Al-Hadith yajtamilu ala thalathi khisalin qabihatin hurima sahibuha wal mutakhalliq biha min dukhuli al-jannah mima yaqtadi annaha min kaba'ir al-dhunub fa inna man nufiya anhu dukhuluhu al-jannah faqad ata kabiratan kama taqaddama ta'rifuha. Donc ce hadith nous indique trois caractéristiques dont la personne qui a ses caractéristiques et qui a ses comportements est privé du paradis. Et ça implique que ça fasse partie des péchés majeurs. Parce que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit telle personne n'entre pas au paradis, ça implique que l'acte qu'il fait et qui va être cité dans le hadith fait partie des péchés majeurs. Comme on l'a déjà expliqué comme Shiri dit, on l'a déjà expliqué. C'est-à-dire que les péchés majeurs, c'est les péchés majeurs qui supportent. C'est-à-dire dans le hadith ou le verset du Coran nous dit celui qui fait telle chose va en enfer. Celui qui fait telle chose, il lui arrivera telle et telle chose dans sa tombe. Ou alors celui qui fait telle chose a la malédiction d'Allah. ou à la colère d'Allah, ou alors un péché qui implique une peine légale ici-bas. Tout ça, c'est comme ça qu'on connaît les grands péchés. Al-Oula, al-Khabbu, Mukhadi'un Muhtali al-Nas. Al-Khabbu al-Mukhadi'un al-Muhtali al-Nas. Parce que là, il n'avait pas mis Alif Lam, c'est pour ça. Donc il dit, le premier, c'est le trompeur. Donc celui qui ruse contre les gens. Fala ya'ishu illa bil-Khadi'a wal-Hilati al-Zamima. فيسلب أموال الناس بطرق الخداع من الكذب في المعاملة والتغرير فيها والتدليس والاحتيال أو يخادع الناس بالمصاهرة في منهم بإظهار الدين والغناء والخصال المرغبة في إجابة خطبته أو تظهر المرأة صفات بها ترغب مكرا منها أو خداعا أو غير ذلك. Il dit donc, Al-Khab, c'est celui qui ruse avec les gens et qui ne vit que par la ruse et la tromperie. Et il essaye d'acquérir les biens des gens par la tromperie dans les relations. Donc en rusant et en trompant et en déguisant dans le commerce. Ou alors en extériorisant qu'il est quelqu'un de religion et qu'il est riche. Et c'est-à-dire, il extériorise des caractéristiques qui font que si il demande quelque chose, tu vas lui accorder les choses. Ou alors une femme aussi qui extérioriserait des caractéristiques pour tromper les gens, etc. فَالْخِدَاعُ لَا تُعَدُّ أَسَالِيبُهُ وَطُرُقُهُ وَإِنَّمَا يَشْمَلُهُ أَنَّ كُلَّ مَنْ خَادَعَ النَّاسَ لِأَيِّ غَرَضٍ مِنَ الْأَغْرَاضِ فَخِدَاعُهُ مُحَرَّمٌ مُسَبِّبٌ لِلْحُرْمَانِ مِنَ الْجَنَّةِ. Donc la personne qui trompe les gens, le khadda', les moyens qu'il va utiliser et les chemins qu'il utilise, on ne peut pas les compter. Et ce hadith implique et englobe toute personne qui trompe les gens de manière générale, quel que soit son but. Donc sa tromperie est interdite dans l'islam et le privera du paradis. الثانية البخل تقدمت النصوص من الكتاب والسنة وكلام العلماء وإجماع الناس على ذمه وقبحه وإجماع العلماء على تحريمه إذا وصل إلى منع الزكاة والنفقات الواجبة والتقصير في حق من Donc là, je ne sais pas si c'est une faute de frappe ou, en tout cas, j'arrive pas à lire ce mot. فكفى بالمرء إثما يمنع عمن يمونه قوته. Donc il dit ici, là, on a déjà parlé de l'avarice. Et il dit, on a déjà cité les versets du Coran, les hadiths et les paroles des savants et le consensus des savants sur le blâme de l'avarice. الثالثة سيء الملكة وهو الذي فقد الشفقة والرحمة فصار يسيء إلى مماليكه فيكلفهم من العمل ما يشق عليهم ولا يطيقونه ويترك ما وجب عليه من الإنفاق عليهم والقيام بحقوقهم. Donc سيء الملكة, donc entre guillemets le mauvais maître, c'est la personne qui a perdu la pitié et la miséricorde, et il est mauvais et il a un mauvais comportement et il nuit à ses mamaliques. C'est quoi le mamalik? C'est ses esclaves. C'est-à-dire, en temps d'esclavage, il nuit à ses esclaves. Et il leur impose de faire des actes qui sont difficiles pour eux et qu'ils ne peuvent pas faire. Et en même temps, lui, il ne dépense pas les dépenses obligatoires qu'il devrait dépenser envers eux. Et il ne respecte pas leurs droits obligatoires. ثم مع هذا يتجاوز الحد في تأديبهم فيعاقبهم على أتفه الأشياء عقاب المجرمين بلا رحمة ولا شفقة ولا هوادة. Et ensuite, pour les corriger, il dépasse la limite quand il doit les corriger et il les châtie et il les punit comme on punit un criminel, sans miséricorde et sans pitié. ومثل المماليك البهائم التي تحت يديه. Et comme, c'est-à-dire, on peut comparer aux esclaves dans ce domaine-là, le fait de bien les traiter, aussi ce qu'il y a sous ta main, c'est-à-dire comme les bêtes, comme quelqu'un il peut posséder des troupeaux, des bestiaux ou même les chiens de garde pour garder le troupeau, etc. Donc ceux-là aussi, ils sont sous ta malaka, sayyul malaka, c'est-à-dire le mauvais maître. Donc le mauvais maître, ça englobe aussi celui qui a des animaux, et donc il doit bien les traiter. يقصر عليها بالنفقة ويكلفها من العمل والحمل ما يشق عليها. Donc ce genre de personne qui envers ses animaux ne dépense pas suffisamment et il leur impose des travaux ou alors de porter des choses plus qu'elles ne le peuvent. Donc ça c'est haram aussi envers les animaux. فهؤلاء الثلاثة الموصوفون بهذه الصفات حرمت عليهم الجنة لأن الجنة لا تكون للمخادع ولا للكذاب ولا للبخيل الشحيح ولا للقاس الذي خلا قلبه من الرحمة. Donc ces trois personnes citées dans le hadith, à cause de ces caractéristiques, elles sont privées du paradis, car le paradis n'est pas pour un trompeur, ni un menteur, ni un avare, et ni quelqu'un qui a un cœur dur, vide de toute miséricorde. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تسمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة يعني الرصاص أخرجه البخاري. Dans ce hadith de Sahih al-Bukhari rapporté par Ibn Abbas alaykoum salam, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: celui qui écoute les paroles de personnes qui ne veulent pas ça, c'est-à-dire wahum lahu karihun, et ils détestent qu'il écoute leurs paroles, il lui sera versé du plomb dans ses oreilles au jour du jugement. Al hadith dalil ala tahrim al-istima' ila hadith man yakrahu sama' hadithihi wa yu'rafu hadha bit-tasrih min al-mutakallim aw bi qara'in al-ahwal. Donc le hadith montre une interdiction, tahrim, d'écouter les paroles des gens qui ne veulent pas qu'on les écoute. Et ça, on le sait soit parce qu'ils l'ont dit clairement, at-tasrih, c'est-à-dire la personne dit « je veux pas que t'écoutes », ou alors aussi il dit « biqara'in il-ahwal », c'est-à-dire avec des indices, des signes qui montrent que ces personnes, par exemple, ils vont s'isoler. S'ils s'isolent, c'est qu'ils veulent pas que t'écoutes, même s'ils te le disent pas. Donc des fois, ils te le disent franchement, et des fois, il faut que tu le comprennes, parce qu'il y a des choses qui le font comprendre. « Qala ibn Abdil Barr » لا يجوز لأحد أن يدخل على اثنين في حال تناجيهما. ابن عبد البر رحمه الله, qui est un savant du 5e siècle en Andalousie, disait: il n'est pas permis à une personne d'entrer entre deux personnes pendant qu'ils discutent secrètement. التناجي, c'est-à-dire qu'ils ont une discussion privée. الوعيد الذي في الحديث يدل على أن استماع حديث من لا يرغب في سماع حديثه أنه من كبائر الذنوب. ذلك أن فيه وعيدا شديدا في الآخرة وهو لا يكون إلا على كبيرة. Donc il dit la menace et le châtiment qui sont promis dans le hadith montrent que cet acte fait partie des grands péchés. من أدب المجالسة أن لا يدخل الإنسان في حديث اثنين لم يدخلاه فيه ما لم يكن الحديث من المجالس العامة أو يكون من مسائل العلم. Donc il fait partie de la politesse dans al-mujalasa, c'est-à-dire le fait de s'asseoir avec les gens, qu'une personne n'entre pas dans la conversation de deux personnes qui ne l'ont pas fait participer et qui ne l'ont pas fait rentrer dans leur discussion, sauf si c'est une assise générale, c'est-à-dire on voit qu'ils n'ont pas interdit qui que ce soit de rentrer avec eux et ils ne sont pas en train de parler, ils ne sont pas isolés, ils ne sont pas en train de parler en secret, c'est une assise générale, donc là il n'y a pas de mal, ou alors si c'est dans des questions de science. وكما يحرم استماع كلام الاثنين المتناجيين فأشد منه حرمة أن يطلع من الأماكن المرتفعة أو من خلال الأبواب والجدران على عورات الناس في منازلهم. Et pire que ça, donc dans l'interdiction, le fait d'essayer de voir les secrets ou les aurat, c'est-à-dire les choses intimes des gens à partir des endroits élevés. Hein, comme des fois dans certains pays, tu vois la personne, elle monte sur la terrasse et elle regarde dans les fenêtres des gens. Ou alors, quelqu'un qui habite dans un immeuble et il prend des jumelles, par exemple. Ou alors, à travers les portes et à travers les murs. Pour voir ce qu'il y a dans les maisons des gens et regarder les gens dans leur maison. وَلَوْ أَنَّ صَاحِبَ الْمَنْزِلِ أَصَابَهُ فِي عَيْنِهِ أَوْ فِي أُذُنِهِ أَوْ فِي غَيْرِهِمَا لِمُعَاقَبَتِهِ عَلَى نَظَرِهِ وَسَمْعِهِ لَمْ يَكُنْ ضَامِنًا مَا تَلَفَ بِذَلِكَ مِنْ أَعْضَائِهِ. Et si la personne qui est dans sa maison attaque, c'est-à-dire violente entre guillemets, la personne qui était en train de regarder ou d'écouter, dans son œil ou son oreille ou autre, pour le punir de ce qu'il est en train de faire, d'avoir écouté ou regardé dans sa maison, dans l'islam on n'a rien, il n'a pas de compte à rendre devant le juge. Il n'a pas à payer pour ce qu'il a pu toucher, s'il a crevé un œil, s'il a coupé une oreille, etc. Il n'est pas dhamin, c'est-à-dire c'est pas, il a pas de compte à rendre devant le juge et il ne doit pas donner une compensation. Il était dans son droit. فقد تقدم حديث أبي هريرة في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاء ففقأت عينيه لم يكن عليك جناح زاد أحمد والنسائي فلا فدية له ولا قصاص. Dans un hadith qui est dans le Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si un homme venait à regarder vers toi, donc là on comprend dans les choses privées bien sûr, sans ta permission, et que tu lui jetterais un caillou et que tu lui crèverais ses yeux, tu n'aurais pas de compensation à donner. Et il n'y a pas de mal contre toi. » Et dans une autre version, qui est chez Ahmed al-Nasa'i, il a dit « Tu n'as pas de compensation, ni de, entre guillemets, de talion. » C'est-à-dire il n'y a pas de répondant. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس أخرجه البزار بإسناد حسن. Donc ce hadith qui est dans le musnad de Al-Bazzar rahimahullah, Ibn Hajar il dit sa chaîne de transmission elle est Hassan. Ce hadith il dit Touba pour la personne qui est occupé par ses défauts et qui se détourne des défauts des autres. C'est-à-dire qui est suffisamment occupé par ses défauts pour s'occuper des défauts des autres. Tourba. Tourba, on peut traduire par bonheur à cette personne. Donc dans l'explication, il dit « هذا الحديث الشريف فيه توجيه رشيد لمن يريد السير إلى الله تعالى فيقطع المفاوز المعوقة حتى يجد طعم الوصول وذلك باتباع الآثار المحمدية والتعاليم الإسلامية فمن ذلك. Donc ce hadith nous donne une bonne orientation pour celui qui veut marcher vers Allah Azza wa Jal. Et donc qui veut couper toutes les causes qui l'empêcheraient d'arriver à goûter l'arrivée à son but. Et ça ne peut arriver qu'en suivant les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les enseignements de l'islam qui comportent notamment awwalan من شغله عيبه فصار جدا في التخلص من رذائل الذنوب ومعوقات المعاصي والآثام فمثل هذا يرجى أن يتخلى منها فيصبح بهذه المجاهدة نقيا صافيا من أضران الذنوب. Il dit la première chose, c'est une personne qui s'occupe de ses propres défauts et qui devient assidu à se débarrasser des bassesses et des mauvais péchés, et des péchés qui l'empêchent, c'est-à-dire qui l'empêchent d'arriver à son but. Il dit ce genre de personne, on espère qu'il arrivera à se débarrasser, donc des péchés, et que grâce à cet effort contre lui-même, Al-Mujahada, il deviendra pur, et il deviendra propre de la saleté des péchés. Donc ça, c'est pour celui qui s'occupe de ses propres défauts. ثانياً من تخلى من وضر الذنوب فإنه سيتحلى بفضائل الأخلاق التي أولها طاعة الله تعالى وفعل ما يجمله ويهذبه ويقربه. De la deuxième chose à dire, c'est que celui qui se dégage de la saleté des péchés, il va forcément ensuite s'embellir par les bons comportements. Et le premier de ces bons comportements, c'est l'obéissance d'Allah et le fait d'accomplir ce qui va embellir la personne et qui va corriger et rapprocher d'Allah cette personne. ثالثاً هو بجهاد نفسه وعسفها للتخلي من الرذائل والتحلي بالفضائل قد شغل وقته بإصلاح نفسه فسلم من تبعة تتبع الناس. La troisième chose, c'est qu'en combattant son âme pour se dégager des bassesses et des péchés et pour l'embellir par les bonnes choses et les bons comportements, eh bien, il a occupé son temps par la correction, son autocorrection. Et donc il sera dégagé et il sera saint du malheur qui est, ou du mauvais comportement qui est, de chercher les défauts des autres. بهذا السلوك المستقيم والسير إلى الله تعالى بهذا الاتجاه الحميد استحق جائزة طوبة التي هي إما شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها وإما درجة عالية في الجنة والله الموفق. Il dit, par ce comportement droit, il a atteint le cadeau, entre guillemets, de Touba, donc qui est cité dans le hadith, quand il a dit Touba à cette personne. Et il dit Touba, c'est soit un arbre au paradis, si un cavalier il voyagerait dans l'ombre de cet arbre pendant 100 ans, il n'aurait toujours pas franchi l'ombre de cet arbre, c'est-à-dire tellement il est grand. Ou alors Touba, c'est un grand degré au paradis. C'est-à-dire là, il nous donne deux interprétations de ce que ça veut dire Touba. Et ça, donc, on doit en tirer profit. Parce que maintenant, la plupart de nos discussions, elles tournent autour de s'occuper d'un tel ce qu'il a fait, un tel ce qu'il a fait. Et des fois, tu vois des personnes, tu regardes dans sa vie, il n'y a ni occupation par la science, ni occupation par l'adoration, ni quoi que ce soit qui pourrait le... sur quoi on pourrait le vanter. Mais par contre, pour juger les autres, il est le premier. Ceux-là, c'est des incapables, ceux-là, ils n'ont rien fait, celui-là, je sais pas pourquoi il fait ça, etc., etc. Et il critique. Et des fois, il critique les gens qui essayent de faire da'wah, et qui essayent d'apporter une petite brique à l'édifice pour essayer, au moins que les gens, ils essayent d'entendre un peu la parole d'Allah et du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sans qu'on ait la prétention d'être ni des savants, ni même des tullabain, ni même des étudiants en sciences, mais simplement essayer de ramener une béquille, parce qu'on est des gens qui boitent, donc d'essayer de traduire au moins des textes en arabe et puis d'expliquer un minimum de connaissances. Donc il ne faut pas critiquer les gens comme ça, parce que des fois tu ne sais pas les efforts qu'il y a derrière, et tu ne sais pas les efforts que des gens ils peuvent faire, et c'est facile toi qui es là et tu viens et tu critiques. Et ça on l'entend partout. Donc les gens, ou alors parfois les femmes. Les femmes, ça c'est aussi une des spécialités, c'est que elles s'assoient autour d'un café et d'un thé, et elles ne font que critiquer les autres. Et une telle, elle a fait, 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 et les heures, elles passent comme ça. Et après, elle remet son jilbab et elle rentre chez elle. C'est-à-dire une contradiction totale entre son jilbab et ses paroles. Et on demande à Allah donc qu'il nous guide et qu'il nous aide à nous corriger. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان أخرجه الحاكم ورجاله ثقات. Ici Ibn Omar رضي الله عنهما dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: celui qui se voit grand en lui-même, تعاظم, c'est-à-dire il se prend pour quelqu'un de grand, et qui est orgueilleux dans sa façon de marcher, rencontrera Allah en colère contre lui. Ça c'est dans le Moussadrak de Al-Hakim. Ibn Hajar dit que ce hadith, toutes les personnes de la chaîne de transmission sont des thiqat, c'est-à-dire des gens des rapporteurs de confiance, dont le hadith est sahih. Et Al-Munziri dit, et il ramène la même parole de Al-Haythami et de Al-Munzir, c'est-à-dire différents savants du hadith qui ont qualifié les rapporteurs de ce hadith comme étant de confiance. الحديث يدل على ذم الكبر والتعاظم ويظهر هذا التعاظم وهذا التكبر في مشيته فيختال فيها وفي لباسه فيسبله وفي كلامه فيتشدق فيه ويتقاعر وفي نظره فلا ينظر إلى الناس إلا ببعض عينيه ويصعر خده للناس فيميله كبرا فمن اتصف بهذه الصفات الذميمة الكريهة فهو منقوت عند الناس وثقيل لديهم. Il dit ce hadith interdit donc l'orgueil et le fait de se prendre pour quelqu'un de grand. Et ce caractère, il peut être dans la façon de marcher, donc c'est-à-dire il marche par orgueil. Il peut être dans ses vêtements, à tel point qu'il fait descendre, il traîne ses vêtements en dessous de sa cheville par orgueil. Ou il peut être dans la parole. Hein, il essaie de dire des belles paroles et tu vois qu'il insiste sur sa façon de parler. Comme il a été cité dans certains athars, comme une vache qui est en train de mâcher de l'herbe. Hein, il y a des athars qui comparent la personne qui cherche à être éloquente à une vache qui mâche d'eux, parce qu'une vache, elle fait comme ça avec ses mâchoires. Et tu vois les personnes, et ça c'est la spécialité des non-musulmans ou des intellectuels, qui, notamment qui cherchent à critiquer l'islam, tu le vois comme ça, on dirait une vache en train de mâcher de l'herbe, tellement il essaye de dire des beaux mots. Mais si sa parole, tu la prends et tu la traduis en mots normaux, comme nous on parle, ben, y a rien derrière. Il n'y a pas d'argument. C'est juste des belles paroles, c'est tout. Et donc il dit aussi, ça peut être dans son regard. C'est-à-dire, il dédaigne de regarder les gens. Et il leur donne qu'une partie de son regard et il se détourne. Donc celui qui a ce genre de caractéristiques, auprès d'Allah, il encourt la colère. C'est-à-dire, il est détesté auprès d'Allah. Et auprès des gens aussi. Il est lourd pour les gens. Et les gens, ils vont se moquer de lui, parce que ça va se retourner contre lui. أما عند الله تعالى فإنه يلقى ربه يوم القيامة وهو عليه غضبان وغضبه مستوجب لعقابه فالكبر والتعاظم من كبائر الذنوب. Il dit, quant à ce qui est auprès d'Allah, eh bien, il rencontre Allah alors qu'il est en colère contre lui au jour du jugement. Et la colère d'Allah implique un châtiment. Et donc on en comprend à partir de là que l'orgueil fait partie des grands péchés.
جاءت نصوص كثيرة في ذم الكبر وأهله. قال تعالى إنه لا يحب المستكبرين. وقال تعالى إني عثت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال تعالى إن الله لا يحب كل مختال فخور.
Il y a beaucoup de textes donc dans la religion qui blâment les gens de l'orgueil, l'orgueil et les gens de l'orgueil. Comme le verset qui dit, certes Allah n'aime pas les orgueilleux. Et le verset qui dit, je cherche refuge auprès de mon Seigneur et, votre, et le vôtre contre tout orgueilleux qui ne croit pas au jour des comptes. Et le verset qui dit, Allah n'aime pas al-mukhtal et al-fakhur. Mukhtal, donc à ma connaissance, mukhtal c'est l'orgueilleux dans son attitude. Fakhur c'est orgueilleux dans ses paroles. Donc c'est-à-dire les deux mots, ils désignent l'orgueilleux mais avec une nuance entre les deux.
وجاء في مسلم من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر.
Et dans Sahih Muslim, le hadith du prophète صلى الله عليه وسلم dit n'entre pas au paradis une personne qui a le poids d'un grain d'orgueil dans son cœur.
وروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى العز إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني فيهما عذبته.
Et dans Sahih Muslim, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, Allah Ta'ala a dit, l'iz c'est le fait d'être puissant, le fait d'être prestigieux. Il dit entre guillemets, donc le prestige ou la puissance, c'est mon izar. Bon, le izar c'est quoi? C'est le vêtement qu'on met autour de la taille. Et al-kibriya, donc l'orgueil ou la grandeur, c'est mon rida, c'est-à-dire c'est comme une genre de cape. Parce que le vêtement des Arabes à l'époque, c'était de mettre un izar et une cape autour. Donc Allah dit, la grandeur, c'est mon izar, et l'orgueil, c'est mon rida. Et celui qui cherche à me les prendre, manaza'ani, c'est-à-dire qui se les dispute avec moi, je le châtie.
قال في مختصر الإحياء الكبر والعجب داءان مهلكان والمتكبر والمعجب سقيمان مريضان.
Donc dans le résumé de l'Ihya, donc je pense, comme je vous avais dit, que c'est Ibn al-Jawzi, rahimahullah, qui dit. Donc l'orgueil, al-kibr et al-ajab, c'est-à-dire d'être imbu de soi-même, sont deux maladies qui mènent à la perte. Et celui qui a ces deux maladies-là, il est malade.
وهما عند الله ممقوتان بغيضان وقد ذم الله الكبر في مواضع من كتابه.
Et auprès d'Allah, elles sont détestées. Ces deux personnes, enfin les personnes qui ont cette caractéristique, sont détestées et elles ont la colère. Et Allah a blâmé ça dans beaucoup de passages de son livre.
فقال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق.
Comme Allah a dit, je détournerai de mes signes ceux qui s'enorgueillissent sur terre sans droit.
وحقيقة الكبر ينقسم إلى ظاهر وباطن.
Et l'orgueil se divise en orgueil extérieur et orgueil intérieur.
فالباطن خلق في النفس والظاهر هو أعمال تصدر من الجوارح.
Il dit donc, quant à l'orgueil intérieur, c'est quelque chose qui est dans l'âme. Et à l'extérieur, ce sont des actes.
والأعمال ثمرات ذلك ثمرات لذلك الخلق.
Et l'orgueil extérieur n'est qu'un fruit de ce comportement intérieur.
وخلق الكبرياء موجب للأعمال. فالأصل هو الخلق الذي في نفسه فوق غيره من صفات الكمال فعند ذلك يكون متكبرا.
Et l'orgueil qui est dans une personne implique forcément des actes. Donc à la base, la personne a là ce comportement qui est en elle et qui est donc l'orgueil et qui va impliquer qu'elle va devenir orgueilleuse. Donc c'est-à-dire, ce qu'il veut dire ici, c'est que la base des actes orgueilleux, ça vient du cœur, et donc c'est le cœur qu'il faut soigner en premier.
وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجلة من الشيطان أخرجه الترمذي وقال حسن.
Donc le hadith nous dit ici, la précipitation vient du diable.
c'est dans Sunan al-Tirmidhi. J'ai regardé, donc Cheikh al-Albani dit que c'est un hadith faible, daif, dans Sunan al-Tirmidhi. On va quand même lire l'explication parce que, comme on va le voir, le sens il est correct quelque part, parce qu'il va citer d'autres textes. الأناة والرفق أصل كبير في سياسة الأمور في سياسة الأمور وعلاجها. لذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه. Donc la douceur et le fait d'aller doucement, c'est un remède dans le fait de traiter les affaires. Et c'est pour ça que le prophète a dit, comme dans Sahih Muslim, صلى الله عليه وسلم, la douceur n'est pas dans une chose sans qu'elle ne l'embellisse. الأمور التي تحتاج إلى تبصر وتفكير وتروي لا ينبغي السرعة والعجلة فيها بل لابد فيها من التروي والتأني وبحث الأمور من جميع طرقها ووجوهها حتى تظهر أمارات العاقبة وعلامات المستقبل في الرغبة في الأمور والإقبال أو بضد ذلك. Il dit les affaires de la vie présente qui mérite réflexion, il ne faut pas se précipiter dans ce genre d'affaires. Il faut y regarder sous tous les angles, et regarder sous toutes les formes et tous les moyens, pour bien savoir si la conclusion sera bonne, et donc on s'avance dans la chose, ou si elle sera à l'opposé de ça. سُلُوكُ الْحِكْمَةِ فِي الْأُمُورِ سَبَبٌ لِلنَّجَاحِهَا وَسَبَبٌ لِتَوَقِّي مَخَاطِرِهَا وَلِهَذَا فَإِنَّ الشَّارِعَ الْحَكِيمَ حَثَّ عَلَى الشُّورَى فقال تعالى وأمرهم شورى بينهم وقال تعالى وشاورهم في الأمر. Il dit Cheikh, le fait d'emprunter la sagesse dans les choses, c'est une cause pour que ces choses elles réussissent et qu'on ait la réussite dans nos affaires. Et c'est une cause pour être protégé des différents dangers qui peuvent nous toucher dans les affaires. Et c'est pour ça qu'Allah Ta'ala nous a légiféré par sa sagesse à shura, c'est-à-dire la consultation. Et il a dit leurs affaires sont shura entre eux, c'est-à-dire leurs affaires sont l'objet d'une consultation entre eux. Ça c'est quand Allah a décrit les croyants. Il a dit leurs affaires sont l'objet d'une consultation entre eux. Et dans un autre verset, Allah a dit wa shawirhum fil amr, et consulte-les dans les affaires. Wa shara'a Allah ta'ala salat al-istikharati wa du'a'iha liyajma' al-muslimu bayna istikharati Allah ta'ala fil umur وبين مشاورة الخلق وأخذ ما لديه من الشورى والنصيحة في ذلك. Et Allah aussi nous a légiféré la prière de l'istikhara, de consultation d'Allah entre guillemets, pour que le musulman ait à la fois consulté Allah dans ses affaires et qu'aussi il ait consulté les croyants et qu'il mérite et il profite de leurs bons conseils. هناك أمور واضحة واضحة المعالم بينة السبل فلا ينبغي التأني فيها لئلا يضيع الوقت عنها والمبادرة إليها فتفوت الفرصة. Cheikh dit, il y a certaines affaires qui sont qui sont claires. Et ce genre d'affaires, il ne faut pas chercher à ralentir dedans. C'est-à-dire, il dit, il y a des affaires, surtout les affaires de la vie d'ici-bas, où il faut aller doucement. Ça demande réflexion. Comme le commerce, comme le mariage, comme les études, etc. Mais il y a des affaires où il faut se précipiter. Et il ne faut pas dire non, il faut l'ajala mina shaitan. Des fois, il y a des gens, tu veux les emmener dans une affaire de la religion, puis tu te dis l'ajala mina shaitan. Non, là c'est une erreur. Parce qu'il y a des choses où il faut se précipiter, il ne faut pas ralentir. Parce qu'après l'occasion, elle va passer, si tu la manques. Donc il dit wa min ahammiha ta'atullahi ta'ala wa al-musara'atu fil khayr wal ibadat. Il dit parmi ces choses où il faut pas se ralentir, c'est l'obéissance à Allah et le fait de s'empresser dans le bien et dans les adorations. Qala ta'ala wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Et Allah nous dit et empressez-vous à un pardon de votre Seigneur et à un paradis dont la largeur équivaut aux cieux et à la terre. Wa qala ta'ala wastabiqul khayrat. Et aussi il nous dit et empressez-vous aux bonnes choses. Wa qala ta'ala yusari'una fil khayrat wa hum laha sabiqun. Et dans un autre verset et ils s'empressent aux bonnes choses et ils sont les premiers à les faire. Wa ja'a fil Bukhari wa Muslim min hadith Abi Hurayra qala ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah. J'avais pas vu. Donc frère Kamel, il dit que Cheikh Al-Albani, il a authentifié ce hadith dans la silsila sahiha. Parce que moi, je n'ai pas ce silsila à la maison. Donc quand je regarde que dans les sunan. Je ne peux pas regarder dans ce silsila. Masha'Allah. Donc, raison de plus pour lire l'explication. Donc il dit,
Ja'a rajulun ila nabi sallallahu alayhi wa sallam faqal, ayu sadaqati a'zamu ajran.
Donc un homme a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelles aumônes ont la plus grande récompense?
قال أنت تصدق أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء ولا تهمل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان والنصوص في هذا كثيرة.
Donc un homme a demandé quelles sont les aumônes qui ont le plus des récompenses. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est que tu donnes alors que tu es en bonne santé et que tu es avare, c'est-à-dire que tu aimes ton argent et que tu espères rester longtemps, vivre longtemps. Et il dit, mais n'attends pas jusqu'à ce que la mort te vienne et tu dises, ça c'est pour un tel, ça c'est pour un tel, alors que c'est déjà pour un tel. C'est-à-dire que de toute façon tu vas mourir et ton argent il va partir dans l'héritage. Donc n'attends pas la mort pour distribuer.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشؤم سوء الخلق أخرجه أحمد وفي إسناده ضعف.
Ici Aïcha rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit le malheur ou la calamité ou la malchance entre guillemets, donc الشؤم, ça on peut le traduire de plusieurs façons, c'est le mauvais comportement. Ça c'est rapporté dans le Mousnad de l'imam Ahmed. Il faut pas mettre il faut éviter les musiques dans les sonneries de téléphone. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit al-ma'azif, comme c'est cité dans Sahih al-Bukhari. Al-ma'azif, c'est les objets qui font de la musique. Donc même le téléphone, il ne faut pas mettre de la musique dedans.
Akhrajahu Ahmed wa fi isnadihi dha'f. Donc il dit c'est rapporté par Ahmed et il y a de la faiblesse dans sa chaîne de transmission.
Il dit dans l'explication الخلق الحسن هو خلق المصطفين من عباد الله تعالى الذين قال الله عنهم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس فهو رأس الأخلاق الفاضلة ودليل السعادة الأبدية.
Il dit le bon comportement, c'est le comportement des élus d'Allah, dont il a dit, et ceux qui répriment leur rage, et ceux qui pardonnent les gens. Et il dit donc ça, c'est la tête des bons caractères, et c'est une preuve du futur, du bonheur futur et éternel de la personne.
فقد قال صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق رواه مسلم. Et le prophète a dit البر, c'est-à-dire la piété ou le bien ou la foi, c'est le bon comportement.
وقال عليه الصلاة والسلام إن خياركم أحسنكم خلقا رواه البخاري ومسلم.
Et il a dit صلى الله عليه وسلم les meilleurs d'entre vous sont ceux qui ont le meilleur comportement. Ça c'est dans les deux sahih.
وقال إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم رواه أبو داود.
Et il a dit dans les sunan d'Abu Daoud, le croyant rattrape ou accède par son bon comportement au degré de ceux qui jeûnent et de ceux qui prient la nuit.
فهو سعادة وفلاح ونجاح في أمور الدنيا والآخرة.
Donc le bon comportement c'est du bonheur et c'est de la réussite dans les affaires d'ici-bas et de l'au-delà.
أما سوء الخلق فهو عذاب على صاحبه وعلى من حوله من أهل وأصحاب وعملاء وزملاء فسوء خلقه شؤم عليه لأنه ممقوت مكروه مستثقل بغيض إلى كل أحد منبوذ في مجتمعه فما ضر سوء خلقه وبال عليه في دنياه وأخرى.
Il dit quant au mauvais comportement, c'est comme un châtiment sur la personne qui est dotée d'un mauvais comportement. Et sur ceux qui sont autour de lui, comme sa femme, sa famille, et ses collègues, et ses camarades. Donc le mauvais comportement, c'est un malheur contre lui, qui lui ramène, c'est-à-dire il est détesté des gens, et les gens, il est lourd pour les gens. Et les gens, ils le détestent, et il est rejeté dans sa société. Donc, c'est lui-même qui subit les mauvaises conséquences de son mauvais comportement ici-bas et dans l'au-delà.
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اللاعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة أخرجه مسلم.
Ici, dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ceux qui maudissent les gens ne seront pas intercesseurs et ne seront pas des témoins au jour du jugement, rapporté par Muslim.
الحديث يدل على تحريم اللعن وأنه لا يجوز للمسلم أن يتفوه به لأنه من السباب المحرم ومن اللفظ القبيح.
Donc le hadith montre l'interdiction du fait de maudire et qu'il est interdit aux musulmans de prononcer ce genre de paroles et qui rentre dans السباب, السباب qu'on a vu hier.
نفى النبي صلى الله عليه وسلم عن مكثر اللعن قبول شهادته لأن الشهادة لا تكون إلا من عدل.
Donc ici le prophète renie que quelqu'un qui maudit beaucoup soit témoin, car le témoignage ne peut provenir que d'une personne de confiance, adl.
كما قال تعالى ممن ترضون من الشهداء,
comme il est dit quand Allah nous a demandé de choisir des témoins que vous agréez.
فمن لم نرضهم لا يكونون شهداء ولا شفعاء.
Donc ceux dont on n'est pas satisfait ne sont ni des témoins ni des intercesseurs.
وكثير اللعن ليسوا بمرضيين عند الله ولا عند خلقه.
Or, ceux qui maudissent beaucoup ne sont ni agréés auprès d'Allah ni auprès des gens.
الظاهر أن نفي قبول شهادة كثير اللعن عامة في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
Et l'aspect apparent du hadith, il dit le cheikh, c'est que quand il a renié que le témoignage de celui qui maudit beaucoup soit accepté, c'est aussi vrai ici-bas que dans l'au-delà.
ففي الدنيا هم ساقط العدالة فلا يصلحون شهودا في الخصومات لإثبات الحقوق.
Donc ici-bas, ils perdent al-adala. Al-adala, c'est-à-dire le caractère qu'une personne on accepte, notamment son témoignage. Donc une personne pieuse et de bon comportement. Et donc ils ne conviennent pas être des témoins dans les disputes entre les gens et pour accorder des droits à des personnes. C'est-à-dire le témoignage de celui qui fait beaucoup ça, il est refusé.
ولا في الآخرة أيضا حينما تشهد الأمم أن رسلهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة فهؤلاء اللاعنون ليسوا من هؤلاء الشرفاء الذين قاموا بأداء الشهادة والتزكية لأنبيائهم.
Et dans l'au-delà non plus, donc lorsque les communautés témoigneront de leurs messagers comme quoi ils ont transmis, eh bien ceux qui disent beaucoup la malédiction ne seront pas parmi eux, parmi ces nobles qui disent le témoignage et qui témoignent de la bonté de leur prophète. Donc on va s'arrêter là et puis nous on se revoit à 18h30. Inch'Allah, nas'alullah ta'ala an yarzuqana al-ilm an-nafi' wal-amal as-salih wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.